le sous-titre, c'est un peu l'occasion de découvrir le protestantisme aujourd'hui, mais je vais aller plus avant. Comment est né ce projet sur Rennes? Alors, les 500 ans de quoi? D'abord, je dirais quelques mots sur la vie de Luther. Précisément, c'est en octobre 1517 que Luther, après un long cheminement, a affiché sur les portes de l'église de Wittenberg, je crois, 95 thèses, dénonçant un certain nombre de dysfonctionnements, et rétablissant, voulant tentant de rétablir la vérité selon la parole de Dieu. Je reviendrai sur le cheminement de Luther un peu plus tard. En tout cas, c'est cela. Nous ne fêtons pas la naissance de Luther. Il est né en 1483. Nous ne fêtons pas son décès. J'ai plus les dates en tête, mais sans doute autour de 1530, quelque chose comme ça. Nous faisons mémoire de cela parce que c'est cela qui a été le déclencheur du mouvement qu'on appelle la réforme de l'Église. Je reviendrai un peu là-dessus. Je pense que au niveau culturel, un certain nombre sont un peu au courant de ça, mais c'est pas si sûr. Alors, comment est né ce projet? Il est né au sein d'un groupe qui s'appelle le Forum Pastoral Rennais. Ça va être l'occasion aussi pour l'Église, et peut-être je m'excuse pour nos visiteurs, mais de toute façon c'est intéressant, vous connaîtrez un peu la vie de notre Église et des Églises un peu sur Rennes. Donc le Forum Pastoral Rennais, c'est une plateforme de rencontre, ça, le Forum, où les responsables d'Églises et des œuvres protestantes, évangéliques, dans un spectre assez large, se rencontrent, se retrouvent 6 fois par an, donc tous les 2 mois, pour échanger librement. À travers ces échanges, c'est un forum parce qu'à travers ces échanges, ils n'engagent pas les communautés dont ils ont la responsabilité. Et on échange. Et pour bien distinguer justement cela, si par moment on se dit « tiens, ce serait bien de faire des choses ensemble », ce qui est toujours un défi, il y a une autre instance, la plateforme d'action commune, où là, 2, 3, des fois plus d'églises, se retrouvent sur des sujets bien précis pour faire une action, une communication, enfin bref, quelque chose ensemble. Dans le cas présent, voici donc les églises et associations organisatrices du projet, donc que je vais expliciter, sachant que d'autres églises, d'autres œuvres se sont saisies ensuite en chemin du projet. Et tant mieux. Voilà. Donc les associations ou œuvres, je les cite, c'est Agapé France, qui a un ministère auprès des étudiants, essentiellement un ministère auprès des étudiants, et il y a beaucoup d'étudiants à Rennes. Nous avons au sein de l'Assemblée à Lille, qui est sans doute avec les enfants, peut-être ce matin, et puis Laurence, je crois, l'IRVA maintenant. Donc c'est un mouvement qui a d'ailleurs une forme au niveau juridique d'église, puisqu'ils sont aussi associations cultuelles. Ensuite, il y a l'église Christ pour tous, qui est sur le mail François Mitterrand. Je vous citerai les noms des responsables principaux. L'église Christ pour tous, c'est David Bouyck. L'église Espérance des Nations, qui aujourd'hui n'a pas vraiment de local fixe, mais occupe des salles municipales. Le responsable est donc Samuel Roland. L'église protestante évangélique de Rennes-Sud, dont le responsable est Vincent Doucelin. Et puis l'église protestante évangélique La Bonne Nouvelle. Et enfin, l'église protestante unie de Rennes, EPUF, c'est les luthéraux réformés. Enfin, bon, c'est un peu de jargon, mais enfin, il faut bien qu'on se cultive un peu. Dont le responsable est Olivier Putz. La volonté commune qui a été exprimée par les uns auxquels d'autres ont adhéré, la volonté commune, je dirais minimum, c'est de faire connaître les communautés protestantes sur Rennes en s'appuyant sur un événement susceptible d'intéresser un public large. Je reviendrai, ça c'est l'objectif commun, il y a pour l'Église de la Bonne Nouvelle 2 motivations pour lesquelles nous sommes engagés dans ce projet, avec le Conseil des Anciens, évidemment. Donc, un événement culturel, et moi j'ai ajouté à transformer. Ça se veut d'abord, ce qui a été conçu, un événement culturel, consistant en, premièrement, une exposition de 16 panneaux. Alors peut-être, si vous êtes rentré ce matin par la porte qui est à ma droite, là, vous avez déjà vu un certain nombre de panneaux exposés. Si vous ne les avez pas vus, vous pourrez les voir en sortie. C'est des panneaux qui ont un format 80-120. Donc c'est des panneaux historiques, théologiques et sociologiques retraçant la réforme de l'Église et les réformes qui ont suivi. Il y a la réforme qui a démarré là, mais il y a eu beaucoup d'autres réformes et ça a été le démarrage pour tout un tas de mouvements, y compris des mouvements de réveil, particulièrement au 19e, et qui se prolongent aujourd'hui sous différentes formes. Deuxième point commun à ces églises ou mouvements organisateurs de l'événement, des événements, une conférence le 12 octobre à 20h. J'ai noté, je pense que ce sera confirmé, Maison des associations à Rennes. Le conférencier, ce sera Jean-Yves Carluère, qui est un protestant évangélique et aussi professeur à l'université, et qui nous parlera sur Luther et Rennes, la réforme protestante en Bretagne. Enfin, ce sera autour de ce thème-là. Il connaît vraiment bien le protestantisme et l'histoire du protestantisme, et particulièrement en Bretagne. Troisième point de cette commémoration, si on veut, un week-end portes ouvertes. Alors, week-end portes ouvertes. Je ne parle pas ici de l'église de la porte ouverte de Mulhouse, je ne parle pas du mouvement portes ouvertes qui s'occupe des chrétiens persécutés, c'est simplement un week-end portes ouvertes. C'est-à-dire que le 29 septembre, le vendredi 29 septembre au soir, le samedi 30 septembre toute la journée et le dimanche 1er octobre, les églises, au moins les églises organisatrices et d'autres, se sont mis d'accord pour ouvrir leurs portes au public et faire visiter leur lieu de culte, le lieu où ils se rencontrent, leur parler de l'Église et de ce lieu comme ils veulent, et comme support, on aura l'exposition. Hein ? Et je vais un peu détailler, on pourra faire aussi d'autres choses, on a déjà posé un certain nombre de choses, ça peut encore être enrichi. Donc, ce jour-là, la même exposition, c'est-à-dire les 16 panneaux dont j'ai parlé, là, seront exposés dans au moins 5 lieux en même temps sur la ville de Rennes. Voilà. Il est possible que vous voyiez ces panneaux avant, puisque, je crois, peut-être dès maintenant, je pense qu'il y a des endroits où ça a été exposé, mais nous sommes mis d'accord que, au moins sur un week-end, eh bien, les églises protestantes et évangéliques sur Rennes, et la région, et en Bretagne, et plus large, mais au moins ça, ouvriront leurs portes en même temps. Alors, je viens un peu plus en détail sur l'exposition. L'exposition comportera 6 panneaux historiques que vous pouvez découvrir dans le hall aujourd'hui, qui explicite les choses. Là, bien sûr, Luther et Calvin, c'est deux noms qu'on connaît très très bien. Mais il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, qui a connu un millénaire entre Constantin et je dirais, la Réforme, il y a quand même des choses qui se sont appesanties, des jougs qui se sont appesantis sur les croyants. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Mais de tout temps, il faut savoir qu'il y a des hommes qui sont restés attachés aux Écritures. Et il faut savoir que dans toute cette période-là, les Écritures n'étaient disponibles que dans la langue des ecclésiastiques, c'est-à-dire le latin. Autant dire que le peuple n'avait pas tellement accès à cette connaissance. Il faut savoir que dès le XIIe siècle, il y a des hommes qui ont fait des traductions de la Bible dans la langue de leur pays. Donc ça, il y a eu des précurseurs de la réforme. Luther n'est pas arrivé comme ça. Il y a tout un tas de circonstances qui sont amenées. Mais il faut savoir, et c'est important pour notre foi, que de tout temps, il y a des hommes et des femmes qui sont restés attachés aux Écritures, quel que soit le prix à payer. Donc, il y a un panneau sur Luther, un panneau sur les précurseurs de la Réforme, un panneau sur les autres grands réformateurs, notamment Calvin et Zwingli. Ensuite, il y a les anabaptistes. Je rappelle que les anabaptistes, parce que cette réforme elle a déclenché tout un tas de mouvements, les anabaptistes sont ceux qui ont remis, ça nous paraît une évidence aujourd'hui, nous, dans les milieux évangéliques, qui ont remis en lumière le fait que le baptême était un baptême par immersion et que c'était un baptême qui était la manifestation, la confession d'une foi et d'un cœur et d'une conscience qui avait été changée, et non pas, ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est la foi qui sauve, bon, je reviendrai là-dessus, la foi dans l'œuvre et le sacrifice de Jésus-Christ, et qui est manifestée. Et donc, ça nécessite globalement que ce soit quelqu'un qui ait toute sa conscience, donc ça exclut globalement les petits-enfants. Hein. Donc, vous voyez, il y a tout cette chose-là. Il faut savoir que les anabaptistes ont souffert énormément, y compris de ceux qui avaient accepté la réforme. Donc, je dis ça parce que quand vous visiterez les panneaux, des fois, j'ai une expression qui n'est pas très jolie, mais on est des fois un petit peu bisounours entre nous. Hein. Oh, on s'aime, c'est beau, etc. La foi, la vérité, des fois, ça a été compliqué, quoi. Et puis, il y a cette chair qui est toujours là et qui amène des positions des fois très dures. Il faut savoir ça. Je le dis parce que dans l'exposition, ces choses sont exposées. Il faut qu'on regarde les choses en face. Ça peut nous servir aujourd'hui. Voilà. Donc, les 6 panneaux historiques. Ensuite, il y aura 5 panneaux théologiques qui sont... Les thèmes sont davantage connus. Peut-être, pour certains, ça parle. Les 5 soli, ça, pour le coup, c'est un mot latin. Les Écritures seules, par le Christ seul, par la grâce seule, par la foi seule, et à Dieu seul la gloire. Et ces panneaux-là, nous les découvrirons dimanche prochain. Ensuite, 4 panneaux sociologiques. La pensée d'un certain nombre était de dire, bon, le protestantisme, c'est pas le tout, c'est pas une histoire... pas simplement une histoire d'histoire. Aujourd'hui, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça a transformé, etc. Et c'est un peu le rôle de la sociologie, je ne suis pas un sociologue, moi, mais voilà, de dire comment, dans les temps présents, eh bien, il y a eu des hommes et des femmes dont la vie, qui ont eu un impact à travers la pensée de la réforme. La pensée de la réforme, c'est la pensée des Écritures. Hein. Voilà. Par exemple, à Rennes, il y a un espace qui a été... créé il y a quelque temps, l'espace Paul Ricoeur pour les Rennais qui viennent sur Rennes, là, qui est près de la place du Général de Gaulle. Là. Paul Ricoeur est un philosophe, certes, mais bon, un protestant. Hein, après, la famille protestante évangélique, et c'est toute la difficulté, j'y reviendrai, ça peut être très très large. Hein, voilà. Et puis enfin un panneau reprenant les contributeurs à la réalisation de l'exposition. Je mets sur le... Je ne sais pas si ça suit, oui, voilà. Bon, c'est pas de qualité. C'est simplement pour vous montrer les... là, c'est le panneau « À Dieu seul la gloire » que vous verrez donc dimanche prochain. Un petit mot sur la communication autour de cet événement. Bon, c'est le travail en commun. Hein. Alors voilà l'affiche. Que vous en pensez, l'affiche? Hein? Bon. Alors, il y a tout un tas de points de vue. Je me suis engagé, moi. Alors, maintenant, j'assume. Hein. Alors, vous avez sur la partie supérieure droite, la moitié du visage de Luther. Et puis, sur la partie, on va dire, gauche, la moitié du visage d'une jeune femme, on va dire, qui a les lunettes sur les cheveux, là, les cheveux longs, de type déterminé. Bon, il y avait tout un tas de choses, mais ça, c'est les communicants. Hein. Les communicants, c'est les communicants. Il faut connaître tous les talents, hein, mais bon. Voilà, alors, bon... L'idée, ce n'est pas un problème sur la théorie du genre, hein, déjà, on va quand même dire ça. Non, mais que ce soit clair, parce que, ouais, je sais, après, mais Robert, tu comprends, il y a ça. Bon. Pour moi, c'est clair, en tout cas, je vais vous dire, moi, comment je comprends la chose. Hein. C'est pas une intrusion du féminisme, comme ça, qui viendrait par la gauche, par la Sénestra, hein. Non. Voilà, c'est le salut pour tous, hein, voilà, c'est le salut pour tous, le visage n'est pas très typé, un petit peu asiatique, bon, peut-être parce que, hein, il y a quelque chose de, voilà, c'est comme ça, le salut pour tous, hein, on va résumer ça comme ça, et l'actualité, c'est actuel, il y a une pensée actuelle, un mouvement de Calvin. Il y avait d'autres propositions, qui m'avait amené, j'avais dit à mes amis, j'ai dit, écoutez, moi, s'il y a des propositions, là, j'y vais plus. Hein? Donc, bon, je passe. Voilà. J'ai l'air comme ça. Donc, communication, puis je reviendrai un peu. Donc, une communication a été faite vers les autorités de la ville qui sont au courant. Il y a un dossier de presse, les choses ont été présentées aux autorités de la ville, pas pour leur demander l'autorisation, pour leur dire ce qu'on faisait. Savoir s'ils voulaient mettre un certain nombre de choses à disposition. C'est important, ça. Hein, à ce sujet, je le dis maintenant en matière de communication, il y a un site qui s'appelle www.500ans.fr et vous trouvez beaucoup de choses là-dessus, notamment le dossier de presse. En matière de communication, il y a des affiches qui seront faites, il y a une communication globale, et puis église par église, on aura des affiches à déposer ou installer chez des commerçants, des entreprises, tant qu'on voudra, des flyers à distribuer autour de nous, à déposer chez les commerçants, et on souhaiterait vraiment que ce soit diffusé dans le quartier de Clenay, à travers le marché, les boîtes aux lettres. Je reviendrai là-dessus. Donc, je récapitule, voilà, si c'est à peu près clair. Nous sommes le 3 septembre, donc il y a 7 panneaux historiques qui ont été installés. Dimanche prochain, les 5 panneaux théologiques seront installés dans le hall également. Et le 17 septembre, les 4 panneaux sociologiques. J'ai une petite erreur là, parce qu'il y a un panneau qui représente à la fin les protestants dans le monde, un chiffrage. Alors là, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est intéressant quand même de voir un peu l'impact du protestantisme dans les différents pays aujourd'hui. Alors, ce week-end porte ouverte, vous avez un tableau en dessous qui vous présente les 3 jours et les tranches horaires. Donc, je reprendrai l'information sur plusieurs formes. J'ai vu, nous avons eu une réunion autour de l'évangélisation mercredi soir. C'est pas simple, la communication, donc pour qu'on comprenne bien, que chacun comprenne bien ce qui se passe. Le vendredi 29 septembre, de 18h à 21h, nous ouvrirons les portes de l'église, de 18h à 21h, pour accueillir les gens qui voudront venir voir l'exposition et découvrir l'église. On va préciser ensuite ce qu'on y fera exactement. Le samedi 30 septembre, il y aura un temps de 14h à 18h, porte ouverte, exposition 500 ans, et à 18h, nous projetterons ici, dans cette salle, le film Luther. Peut-être un certain nombre l'ont vu, c'est un film, mais quand même, il trace bien le parcours de cet homme, j'allais dire du tourment à la grâce. Hein. Vraiment, c'est un film qui est bien fait, je vous conseille. Il est très bien fait. Et le dimanche 1er octobre, on aura un culte, on verra, il sera peut-être un peu particulier. En tout cas, c'est un culte où on intégrera le fait que peut-être des gens auront eu envie de découvrir comment ça se passe, un culte chez les protestants évangéliques. Hein. Donc, il y aura le culte à 10h15, on verra, peut-être on fera un petit pot après, on verra ça. Et puis, de nouveau, porte ouverte l'après-midi de 14h à 18h. L'exposition, elle nous appartient, elle appartient à l'Église. Chaque Église qui a décidé de participer à ce projet a acquis l'exposition. Hein. Alors, je veux dire un mot quand même comment ça s'est fait. Le coût de l'exposition, le coût matériel, mais pas seulement matériel, il y a un peu de communication là-dessus, il y a un graphiste qui a travaillé, etc. Un frère, hein, un chrétien, mais voilà, on l'a rémunéré. Donc, le coût de l'exposition aujourd'hui est de 350 euros. Voilà. Donc l'exposition appartient à l'Église, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour tout un tas d'autres choses. Alors, avant d'aller dans le détail des journées portes ouvertes, je voudrais dire qu'en plus des objectifs et des motivations de cet événement au niveau global, pour l'Église, ça ne vous surprendra pas, il y avait deux choses qui nous paraissaient intéressantes. Premièrement, que ça peut être une occasion d'évangéliser, hein, et de répondre avec douceur de l'espérance qui est en nous. Je pense qu'une visite d'un lieu comme ici, pour le entre guillemets, grand public, ça peut être surprenant, c'est un peu inhabituel. Donc, y compris la visite du lieu peut amener des questions. Et notre but, c'est de saisir ces occasions pour évangéliser. Hein. Pas de pilonner les gens, mais de leur dire quelle est notre foi, tout simplement. Hein. Et puis, il m'apparaît, et je crois que ça a été partagé, que pour notre communauté, beaucoup sont venus à l'Évangile à travers le témoignage des uns des autres. Et je crois que c'est intéressant que nous nous souvenions que nous ne sommes pas arrivés comme ça. Nous avons eu la chaîne des témoins de la foi, c'est un thème qui m'est vraiment cher. Elle est exposée dans Hébreux 11, mais elle s'est continuée. Il n'y a pas que les témoins de la foi d'Hébreux 11. On voit à travers les siècles, et ça, je crois que ça fortifie notre foi, de connaître un petit peu ce qui s'est passé, les luttes, les combats qu'il y a eu bien avant nous. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant pour nous de connaître ces choses. La parole nous invite à regarder les témoins qui nous ont précédés, regarder à leur fin, très important, imiter leur foi. Les Luther, les Calvins et tous les Anabaptistes et tous les hommes de réveil, les Wesley, etc. Aujourd'hui, leur vie terrestre est terminée et nous avons vu certains qui ont chuté, ils ont vu leurs difficultés, mais leur fin a été bonne avec le Seigneur. Donc, on peut regarder. Hein, et faut faire très attention. On est faible, on peut bien démarrer et mal terminer. Et dans des ministères, c'est quelque chose de grave. Il ne s'agit pas de condamner, mais il faut faire attention qui on suit et ce que l'on suit. Voilà. Alors, en détail, j'ai baptisé ce flip, cette feuille, l'Église au service, parce que sur ces trois jours, il y aura besoin de plusieurs équipes pour accueillir, pour renseigner et guider, pour répondre aux questions sur l'exposition, pour présenter notre assemblée, le lieu de culte, pour tenir un stand de librairie, pour servir une boisson et des petits gâteaux, enfin, ou autre chose, hein. Pour échanger suite à l'expo, pour assurer la surveillance et la propreté des locaux, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire sur, et je reviens, je passe au transparent suivant, transparent. C'est pas grave. Comment on dit maintenant ? Le flip, le slide, le... Hein ? La diapo. Ah ben la diapo, c'est pas mal, tiens. Voilà. Voilà. Donc l'Église au service, il y aura six tranches horaires à couvrir. Est-ce qu'on voit à peu près ? Oui. Six tranches horaires, donc le vendredi soir de 18h à 21h, il y a une tranche horaire de 3h. Le samedi, la tranche 14-18h a été découpée en deux tranches, soit pas la même équipe qui assure tout. Maintenant, ceux qui veulent rester toute la journée, il n'y a pas de problème. Hein. Le film Luther demandera aussi une équipe pour entourer les gens qui seront là. Et puis le dimanche, de 14h à 18h. Donc la présentation, évidemment, de cette diapo est très intéressée. C'est que chacun, le but aussi, c'est qu'on note bien sur nos agendas, qu'on puisse retrouver tous ceux qui ont à cœur de servir à l'occasion de cet événement, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse réserver le temps pour ça. Voilà, alors, on remettra, il y aura des choses qui seront affichées, certains de ces transparents seront affichés, notamment les tranches horaires, etc. Il y aura encore des détails de données, mais d'ores et déjà, à la fin de ce culte, Jean-Luc restera là. Si déjà vous êtes, vous dites, oui, je pourrais être disponible, eh bien, venez vous inscrire, parce qu'à ce moment-là, on vous donnera plus d'infos. On y reviendra aussi dans les annonces, mais qu'on ait une équipe qui puisse être organisée correctement là-dessus. De toute façon, on peut tous être mobilisés déjà pour faire connaître l'événement. Et c'est un support, hein, on en parlait toujours dans le groupe d'évangélisation, on a toujours des fois besoin d'un support pour engager une conversation. Là, c'est vraiment un événement culturel, mais sur lesquels on peut nous s'accrocher pour annoncer l'Évangile. Un petit mot sur comment s'est déroulée comment ça a été créé. Il y a eu un petit comité dit cahier des charges, c'est-à-dire qui a exprimé ce qu'on souhaitait trouver dans l'exposition. Et je voulais dire, pour moi, je l'ai exprimé auprès des anciens, ça a été une expérience riche, remuante les entrailles. Parce que, voilà, nous avons travaillé avec des frères issus de vraiment de mouvements très différents, quand même. Très différents. Alors, je vais en parler simplement. Nous étions 4 pour ce comité cahier des charges et 4 pour relire. Je me mouille, hein. Pour relire les panneaux, pour les construire. Alors, comment ça s'est fait? Le cahier des charges, on a constitué un comité de 4 qui était validé par les responsables des œuvres pour déterminer la partie historique, ce qu'on voulait traiter, jusqu'où on allait, etc. C'est pas facile, hein, c'est quand même assez concentré. La partie théologique, qu'est-ce qu'on mettait? Et puis la partie sociologique, pas forcément la plus facile. Et ensuite, à partir de ce cahier des charges, ont été contactés des théologiens. Et là aussi, dans les théologiens, vous avez tout un tas, toutes sortes de théologiens avec des sensibilités vraiment très différentes. Des théologiens, des pasteurs confirmés dans le ministère, qui ont une solide formation théologique aussi, et puis des sociologues protestants, certains évangéliques. Donc, vous voyez, et avec toute cette matière. C'est des rédactions d'articles assez denses, hein. On leur donnait des contraintes assez fortes, parce que sur un panneau, les règles de communication, c'est pas facile. Ça a déjà été tout un travail, et ensuite on a relu tout ça, réagencé, discuté parfois mot à mot. Je ne pensais pas me retrouver un jour dans une instance où on ait ce genre de discussion. Mais écoutez, ça c'est le côté qui n'était pas forcément facile, mais à côté de ça, j'ai rencontré des frères, quoi. Il y a des relations fraternelles, quelques-unes qui se sont fortifiées. On a été amené à se parler en vérité, hein. Donc voilà, c'est beaucoup de temps. Essayons d'utiliser ce qui a été fait là pour accroître le royaume de Dieu. Alors, j'aurais partagé encore quelque chose. Concernant Luther, je ne vais pas prendre toute sa vie, mais simplement rappeler. Bon, rapidement, il est né en 1483. Et faut savoir que Luther est donc né dans une famille catholique. Et très tôt, il est attiré. Et Luther va être ordonné prêtre. C'est important à savoir, c'est quelque chose qui me touche. Il est ordonné prêtre à 24 ans. Et c'est un homme qui a un tourment terrible par rapport au péché, quoi. Il est absolument pas sûr d'être sauvé. Il a des tourments incroyables, hein, allant à se flageller. Il est vraiment tourmenté par cette question du salut. Et il faut faire attention dans nos vies. Il prend l'engagement d'être prêtre alors qu'il rentre chez lui et qu'il y a un orage extraordinaire. Et là, il se voit mort et je ne sais plus quel saint il invoque. Il dit, si tu me sauves, je me fais prêtre, quoi. Je me fais prêtre. Non, mais c'est... Vous savez, moi, c'est des choses qui me touchent, hein. J'ai fait le petit séminaire et les engagements, je dirais presque des paroles insensées, des vœux insensés qu'on fait. Et donc, bon, voilà. En tout cas, il a étudié la Bible, c'est un bon élève. Il a étudié la Bible en latin. Et puis, il va enseigner, en fait. Et particulièrement de 1512 à 1518, son enseignement à l'université de Wittenberg va porter sur la lettre aux Romains, la lettre aux Galates et la lettre aux Hébreux. Hein. Et là, vraiment... il va enseigner la parole de Dieu, et à travers cet enseignement, lui-même est bouleversé à un moment. Hein, c'est là qu'il va découvrir ces versets dans Romains 3, hein, dans Éphésiens aussi. Hein, c'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et ce verset de Romains 3, hein, nous croyons que nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres de la loi. Ça a été la grande révélation et la lumière qui est venue. Je vais très vite, il a un parcours. À partir de ce moment-là, il va se heurter. Il faut savoir très clairement que Luther n'a pas décidé, c'est pas un sécessionniste qui a dit « je quitte l'église catholique romaine parce que ça va pas, puis j'ai envie de faire monter ma crèmerie ». Je vous parle direct, mais c'est ça. C'est pas du tout dans la pensée de Luther. Luther se vit catholique au sens universel jusqu'à son dernier jour. Et c'est dans des déchirements terribles qu'il va être amené, qu'il va être poussé dehors. Faut bien comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, on est prompt à dire « ah, mais ça va pas » et paf. Luther a simplement voulu dire à l'Église de Jésus-Christ, qui se considérait comme l'Église de Jésus-Christ, dire « attendez, arrêtez, on s'est trompé. Revenons à l'Écriture. » C'est ça qu'a voulu dire Luther. Et cette position de fidélité aux Écritures va l'emmener dans des situations terribles. C'est important de savoir ça. Et il va se retrouver comme Paul devant César. Il n'a pas décidé d'aller contacter les autorités. Je vais vous lire un petit passage de ces textes. C'est sa fidélité à Dieu. La fidélité aux Écritures, j'insiste là-dessus, qui va l'amener dans ces situations terribles. Je vous lis un petit passage de ce qui s'est passé en 1521, lors de sa comparution à la diète de Worms. Je reviendrai un peu là-dessus, et puis je vous donnerai, je crois que c'est important qu'on se cultive un petit peu là-dessus, c'est une bonne culture. La terrible nuit du 17 au 18 avril, il va comparaître devant à la fois des ecclésiastiques et des autorités temporelles, puisque les deux étaient très liés, qui lui demandent de renoncer à ce qu'il a découvert et de revenir dans l'obéissance à la tradition et au magistère de l'Église catholique romaine. Voilà le tourment dans sa nuit. Il écrit ceci. « Ô mon Dieu, tiens-toi près de moi contre la raison et la sagesse de ce monde. Fais-le seul. Tu dois le faire. Ce n'est point ma cause, c'est la tienne. Qu'est-ce que ma personne ici? Qu'ai-je à faire, moi, avec tous les grands seigneurs de ce monde? Que n'ai-je aussi des jours tranquilles sans trouble? C'est ta cause, Seigneur, ta cause juste, éternelle, soutiens-moi, ô Dieu fidèle, éternel. » Il enseignait aussi les psaumes, mais je crois qu'il en a écrit un bout. « Ô Dieu, n'entends-tu pas? Mon Dieu, es-tu mort? Viens à mon secours, au nom de ton cher Fils Jésus-Christ, ma force, mon bouclier. Viens, viens, car je suis prêt à y laisser ma vie, car cette cause est juste. Que cela soit décidé en ton nom. » Le monde ne pourra pas contraindre ma conscience. La réforme va introduire la notion de la conscience individuelle de manière extraordinaire. C'est important. Pas faire ce que je veux, mais une conscience purifiée, une conscience pure et purifiée par le sang de Jésus-Christ. Une conscience qui devient forte, qui devient un instrument très net pour tenir les positions qui doivent être tenues. Et si mon corps, ta création, l'ouvrage de tes mains devait tomber en ruine, mon âme est à toi. Si notre être extérieur se détruit, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Elle t'appartient. Mon âme est à toi, elle t'appartient, elle demeurera éternellement à toi. Amen. Ô Dieu, soutiens-moi. Amen. Au matin, sa décision est arrêtée. Et voilà la décision de Martin Luther devant ses autorités religieuses. Je vous fais court, mais vraiment, il faut voir comment la tension est menée, hein. Il est quasiment condamné à mort. Hein. Il dit ceci. « À moins que l'on ne me convainque par des attestations de l'Écriture ou par d'évidentes raisons, car je n'ajoute foi ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair qu'ils se sont souvent trompés et contredits eux-mêmes, je suis lié par les textes scripturaires que j'ai cité et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide. Amen. » Je pense qu'on a deux beaux sujets. Là, l'importance des Écritures et notre conscience, une conscience éclairée par le Seigneur Jésus-Christ. Je terminerai Vraiment, je vous parle avec mon cœur ce matin sur ces sujets-là. C'est des choses vraiment qui me touchent, qui m'interpellent. Y compris dans la responsabilité, avec mes frères, je crois, de conduire une église dans ces temps. L'autre thème, je vais l'aborder courtement, mais dire quelques mots quand même, sur unité et vérité. Tout le monde veut l'unité. Tout le monde veut l'unité, et on cite souvent ce verset de Jean 17, qu'ils soient un, comme moi le Père, oui, qu'on soit un, comme Jésus et le Père sont un, dans une totale dépendance. Et c'est difficile, je suis vraiment interpellé sur ce sujet-là. Arriver à se dire, ben frère, je t'aime, je te respecte, tu es mon frère, et on n'a pas à juger. Mais sur ce sujet-là, je ne peux pas aller plus loin avec toi. C'est difficile. Il est dans le spectre, je dis le spectre, des églises confessant, se disant protestantes, évangéliques. Après, vous pouvez rajouter tous les ismes que vous voulez. Mais que fait-on lorsque on dit la grâce ? La grâce ? Et je dis la grâce, et nous chanterons encore. Je dis la grâce. Mais que l'homme a du bon en soi, et puis il peut être amélioré, et puis le baptême, dans le fond, on peut baptiser les enfants, et parce que, dans le fond, si les enfants n'ont pas la foi, l'Église a la foi pour eux. Et il y a un moment, frères et sœurs, où ouais, je n'engage que moi. Mais moi, je ne peux pas être d'accord. Alors, on peut se respecter, et je crois qu'on doit se respecter, pas à juger, mais à un moment, je dis, ben voilà, ce n'est pas ce que j'ai dans ma conscience. Et puis, alors, on fait l'unité, on mêle parfois le Saint-Esprit à cette unité, en disant, le Saint-Esprit est là. La colombe n'a pu se reposer un moment après le déluge. Elle est revenue un moment, elle n'a pas pu se poser. L'unité doit être sur la base de la vérité. Et la base de la vérité, c'est les Écritures. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc simplement, je ne vais pas beaucoup plus loin, mais sachez qu'aujourd'hui, je me pose, en tout cas, des questions sur certaines orientations. Je vais citer deux, trois choses. Il y a aujourd'hui, au niveau mondial, je crois à un Dieu qui guérit. Je crois à la puissance du Saint-Esprit qui a été répandue par le Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne crois pas à tout cela dissocié de l'autorité des Écritures. Ce n'est pas possible, parce qu'on va vers des choses graves. Il y a aujourd'hui, et si je le dis, c'est parce que je sais qu'au milieu de nous, des frères, des sœurs, avec plein de bonne volonté, et désirant être ouverts et aimer leurs frères, alors on va de droite, on va de gauche. Il y a, par exemple, je vous donne un exemple, il y a aujourd'hui un mouvement mondial qui revendique sur certains sujets les Écritures, disant qu'il faut investir le monde et conquérir le monde et les villes et les pays, etc. Et investir tous les domaines culturels, financiers, politiques et des affaires pour christianiser le monde, finalement. Ceci, frères et sœurs, n'est pas biblique. Et des ministères qui ont sans doute bien démarré partent là-dedans. Et on prend au passage la théologie, par exemple, de la prospérité. Et puis, une parole de foi, tu dis et ça se produit. Frères et sœurs, avec qui vous voulez, parole de l'Écriture en main, je veux qu'on puisse confronter ces choses. Voilà. Nous ne sommes pas à l'écart de ces choses. Nous ne pouvons pas aller n'importe où et n'importe comment. Et je crois que je vous ai parlé de ça parce que quand je regarde la vie de témoins de la foi comme ça, c'est quand même, il n'y a pas de témoins de la foi qui ont réveillé l'Église sans des souffrances terribles pour la vérité. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, il y a une solitude qui vient. Inévitable. Inévitable. Si on doit dire à un frère, à une sœur, ben écoute, tu es tenté par ça, ben, moi je te le dis, je ne suis pas d'accord, quoi. Pour telle et telle raison. Ça doit être, à moins qu'on ne me convainque par les Écritures ou par une raison évidente, hein, je me serais égaré dans la folie, eh bien, je ne puis pas accepter tout. Voilà. Donc, vraiment, je lirai deux dernières choses pour terminer par la grâce. Par la grâce et la foi. La foi est la réponse de l'homme à la grâce de Dieu. La foi est la réponse de l'homme à la grâce de Dieu. La foi est intérieure à l'homme et la grâce lui est extérieure. Elle est le propre de Dieu qui manifeste son amour aux hommes en leur faisant grâce. Une phrase qui m'a touché. Nous répondons à la grâce de Dieu, c'est lui qui fait grâce, parce qu'il est puissant, et nous répondons, nous, en croyant, dire Seigneur Jésus-Christ, je crois. Et une phrase de Luther, là, « Les pécheurs prennent de la valeur parce qu'ils sont aimés, ils ne sont pas aimés parce qu'ils ont acquis de la valeur par eux-mêmes. Les pécheurs prennent de la valeur parce qu'ils sont aimés, ils ne sont pas aimés parce qu'ils ont acquis de la valeur par eux-mêmes. » Je lis le commentaire, « La conception luthérienne de la grâce et du salut immérité va à l'encontre de la théologie scolastique, bon, qu'importe, qui était pratiquée, qui soutenait que Dieu accorde sa grâce à l'homme à condition que celui-ci fasse tout son possible pour gagner ses faveurs. » Ça, c'est les dieux païens. L'idée d'un mérite humain relève pour Luther de la pure présomption et amène de plus l'homme à se glorifier. Pour lui, toute la gloire revient à Dieu qui opère la rémission des péchés par sa seule grâce. Voilà. Je m'arrêterai là ce matin et prier un instant. Et voilà, bah, j'invite chacun. Je crois que vraiment c'est une occasion. On essaiera de... Enfin, on va faire. Présenter quelques livres sur Luther, sur la réforme, pour nous sensibiliser. Hein, voilà. C'est... Recevons-la comme une occasion de mieux comprendre et d'affermir notre foi. La parole de Dieu, elle a traversé des siècles, des millénaires. Alléluia. J'inviterai peut-être, je prie un instant, mais si l'équipe de louanges pouvait reprendre ce chant, par la grâce seule. Parce que c'est par la grâce seule. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, je te loue et je te bénis, mon Dieu. De ce qu'un jour, cette parole qui aurait pu être une parole dure, Seigneur, tu l'as révélée comme une parole de grâce, une parole de vérité, la vérité tout entière, celle qui libère, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole qui a éclairé nos cœurs, Seigneur. Qui a éclairé nos cœurs. Seigneur, il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas. Mais merci pour cette attestation que tu as mis dans nos cœurs. Que tu es vivant. Que tu es ressuscité. Que tu nous as aimés au point de livrer ton Fils Jésus-Christ. Qu'il l'a fait de lui-même. C'est lui qui a donné sa vie. Ma vie, nul ne la prend. C'est moi qui la donne. Merci Seigneur de ce que tu as déposé dans nos cœurs. La foi pour que ces choses soient installées solidement, Seigneur. Et que nous puissions continuer, et que nous soupirons, nous gémissons parfois aujourd'hui. Seigneur, mais je veux te redire mon espérance de te voir face à face et de retrouver mes frères. Seigneur, donne-nous le courage de supporter parfois, Seigneur, d'être seul, rejeté, Seigneur, non pas à cause de notre propre pensée, mais que ce soit pour la cause de garder la vérité. Donne-nous l'amour de la vérité, Seigneur. Pour être sauvé. Sois béni et sois loué, Père. Amen. Amen.